100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
God save the king!
God save the king!
Bonjour, un nouveau monarque est donc assis sur le trône d'Angleterre, Charles III, est désormais le roi de la Grande-Bretagne, de 14 États souverains membres du Commonwealth et d'Irlande du Nord. Les dirigeants des 5 principaux partis politiques d'Irlande du Nord se sont d'ailleurs rendus à Londres pour assister au couronnement. Mais dans la capitale nord-irlandaise, Belfast, une seule communauté a célébré cette passation de pouvoir suivie par le monde entier. Car dans la province britannique du nord de l'île, la popularité de la couronne est en berne. Un récent sondage montre que seulement 4 personnes sur 10 y soutiennent la monarchie. Parmi eux, les nationalistes et les unionistes, majoritairement protestants, pour qui le maintien de leur relation avec la famille royale va de pair avec celle de leur culture britannique. Le reportage de Laura Toshanoff à Belfast.
Nous sommes dans l'un des plus vieux quartiers de Belfast. Sandy Row est une communauté traditionnellement protestante et très unie autour du loyalisme et donc de la monarchie. Une peinture murale du roi Charles III vient d'être inaugurée. C'est habituellement un endroit calme, mais aujourd'hui la musique est à fond et Daniel vient de dresser une grande table au milieu de la route barrée.
L'idée, c'est de se rassembler pour fêter le couronnement du roi Charles. C'est pas arrivé depuis longtemps, alors c'est une façon de s'en souvenir encore plus. C'est le rassemblement de toute une communauté. C'est le genre de souvenir qu'on veut transmettre à nos enfants. C'est ouvert pour tout le monde. On a fait la promotion de la fête sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est aussi de véhiculer une image positive et de montrer que c'est une journée pour tous.
En réalité, si la démarche se veut inclusive, voir un républicain célébrer la monarchie relèverait du miracle. Les catholiques ne veulent justement plus rien avoir à faire avec les Britanniques et espèrent être réunifiés avec leurs voisins du sud de l'île un jour. Les fêtes de rue communautaires comme celle-ci se font rares. Manque de budget en pleine crise ou autocensure, la réponse n'est pas claire. Quelques protestants choisissent plutôt de venir regarder la cérémonie avec les touristes devant l'hôtel de ville où un écran géant a été installé.
Je travaille à l'ouest de Belfast et là-bas on reste discret sur ce genre de choses. On est obligé, c'est comme ça qu'on a grandi et c'est toujours pareil. Je pense que les gens ont toujours des opinions extrêmes. Moi je dis qu'il y a des cons des deux côtés. La famille royale ne devrait pas diviser, tout comme elle n'aurait pas dû diviser dans les années 70 quand j'étais petite. J'ai vu un nombre incalculable de canons de fusil. J'ai même senti le souffle d'une bombe qui a explosé trop près à 15 ans et depuis j'ai des lésions auditives.
Pour certains loyalistes, cette journée est au contraire l'occasion de se montrer unis face aux républicains et aux nationalistes. On va aller voir une retraitée qui est recouverte du drapeau rouge et bleu du Royaume-Uni.
Je m'appelle Anne Dixon, je suis une protestataire. Cela fait 10 ans qu'on vient tous les samedis pour mettre notre drapeau sur le portail parce que le Sinn Féin et le parti Alliance l'ont descendu. Il n'est autorisé que lors de journées spéciales comme aujourd'hui. 15 jours par an, le drapeau de notre pays. Ils détestent tout ce qui est britannique. Et Michelle O'Neill est à la cérémonie. Ce sont les siens qui ont assassiné Lord Mountbatten, l'oncle de Charles. Je ne sais pas comment ils tolèrent ça. Moi, je pourrais pas. Parce qu'on ne devrait pas s'asseoir à côté des républicains du Sinn Féin et de l'IRA qui ont tiré sur mon mari et l'ont tué dans notre maison. Et pourquoi ? Parce que c'était un unioniste.
Pour Anne, les Nord-Irlandais sont plus fidèles à la couronne que certains Anglais ou Écossais. Mais on sent quand même une inquiétude qui n'existait pas il y a quelques années, lorsque les protestants étaient encore majoritaires en Irlande du Nord. Eileen est une ancienne réserviste britannique. Elle a donc prêté allégeance à la reine lors de son départ en Afghanistan. Elle renouvelle son geste devant l'écran.
Ma mère était là pour le couronnement de la reine et ils ont organisé une grande fête de rue. Malheureusement, ça ne se fait plus tellement aujourd'hui. Voilà pourquoi on vient en ville, pour faire partie de l'histoire. Les jeunes ne s'y intéressent pas.
Et ça vous inquiète, ça ?
Oui, c'est la jeune génération qui va prendre le relais. Et s'ils ne s'intéressent pas à leur histoire et à la monarchie, on la perdra. Et c'est leur identité qu'ils perdront.
Certains passent devant l'écran sans y prêter attention ou en soupirant, comme Luke, un jeune de 24 ans qui s'arrête pour fumer une cigarette.
Je suis protestant et donc issu de cette communauté, mais même moi, je trouve que c'est une perte de temps. On n'a plus besoin d'une monarchie, ils ne font pas grand-chose. Donc je ne vois pas pourquoi nos impôts sont gaspillés pour eux. À Belfast, il y a plein de terrains abandonnés depuis des années et cet argent aurait pu être utilisé pour construire des maisons et sortir des gens de la rue. On aurait pu financer le NHS, les services de police, les pompiers, mais ce n'est que mon avis.
À quelques mètres de là, Cassie a entendu la réponse de Luke. Le jeune veut réagir lui aussi.
Je pense qu'ils sont pleins de haine envers un symbole qui ne leur fait aucun mal. La tradition est importante. C'est la monarchie qui fait de nous un pays unique. Et le monde a les yeux rivés sur cet événement. Ce sera un grand roi et il renforcera les communautés. Je suis très heureux de dire que j'habite au Royaume-Uni et l'Irlande du Nord en fait partie.
Pour les loyalistes, la grande question, c'est de savoir si Charles III réussira à son tour à unir ce royaume très divisé, comme l'avait fait sa mère Elisabeth II.
Charles III a succédé à sa mère Elisabeth II au moment de son décès le 8 septembre dernier. C'était la fin de ce que les Britanniques ont appelé la nouvelle ère élisabéthaine, un règne qui aura duré 70 ans. La grande question désormais, c'est comment va s'appeler le règne de Charles III ? C'est notre chronique en un mot. Bonjour Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres. Alors est-ce que les Anglais se demandent déjà comment sera intitulé le règne de Charles III ?
Alors oui, la question se pose doucement, mais donner son nom à une ère tout entière, ça se mérite. Et puis il faut qu'elle dure un peu longtemps tout de même, donc on n'est pas pressé non plus. Mais c'est vrai qu'on aime parler de l'ère victorienne, par exemple, qui désigne le règne, mais aussi les conditions sociales, le style, les mœurs, la morale, les avancées industrielles qui ont eu lieu pendant les 64 années du règne de Victoria au XXe siècle. Vous avez évoqué la nouvelle ère élisabéthaine pour Elisabeth II. Elle suit l'ère élisabéthaine d'Elisabeth Ier, c'était au XVIe siècle. Cette dernière était incluse dans l'ère des Tudors, le nom de la famille royale. Mais la monarque a tellement tiré son épingle du jeu que cette reine, Elisabeth Ier donc, est la seule de sa dynastie à avoir donné son prénom à une période. Alors les historiens, mais aussi les linguistes et les amoureux des mots, se posent en effet déjà la question.
Pour le lexicologue Tony Thorne que vous avez interrogé, c'est en tout cas un véritable puzzle linguistique, Marie.
Il n'y a pas de mot populaire ou même simplement de mot connu qui fonctionnerait comme un adjectif dérivé du prénom Charles. Ça n'existe pas. Il y a un vide lexical. Il y a bien le terme carliste, mais il désigne les soutiens à un roi espagnol. Le seul terme mentionné, personne ne l'utilise à part peut-être quelques courtisans ou quelques historiens. Mais autrement, personne ne sait qu'il existe et je ne pense pas que les Britanniques l'adopteront. Il ne sonne pas assez anglais.
Ce mot, c'est Carolean. Ça vient du latin Carolis et donc de Charles. Il est évoqué de ci, de là, hein, ce mot Carolean. Mais le souci, c'est que selon le dictionnaire d'Oxford, il est déjà pris. Il fait référence au règne de Charles II dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Carolin en français, désigne de son côté le règne du père, Charles Ier, dans la première moitié du XVIIe siècle. Carolingien n'est pas une option, il appartient fermement à l'empereur franco-germanique Charlemagne.
Et ces mots qui servent à qualifier ces règnes, on ne les recycle pas en Angleterre ?
Non, on parle de nouvelle ère, comme c'est le cas donc pour l'ère élisabéthaine et la nouvelle ère élisabéthaine. Ou alors parfois, on les étire, on les allonge, on les prolonge, les ères. Prenez le cas par exemple de l'ère géorgienne. Elle désigne les règnes des quatre rois Georges à partir de 1714. D'abord, cette époque géorgienne, notez bien qu'elle comprend aussi souvent William IV de la même dynastie, le seul monarque entre les rois Georges et la reine Victoria. Ça n'a pas été un souverain bien aimé, ni qui a régné bien longtemps. Résultat, les Britanniques n'ont pas pris soin d'honorer William IV en baptisant une ère à son nom dans le langage courant. Il fait donc partie de l'ère géorgienne. Ensuite, donc pendant cette époque géorgienne, il y a aussi eu la période de la régence, de 1811 à 1820. C'est donc le prince George qui prend le pouvoir pendant que son père, le roi George, est malade. C'est une période très riche en innovations culturelles et stylistiques, donc elle est à part de l'ère géorgienne, même si elle est comprise dedans quand même. Tout ça pour dire que non, on ne recycle pas vraiment les noms d'ère royale, mais surtout, comme le rappelle Tony Sorn, Charles III n'a sûrement pas envie qu'on le compare à ses aïeux Charles Ier et Charles II.
Charles Ier était un despote médiéval qui croyait au droit divin des monarques. Son fils, Charles II, était un playboy décadent dont on se souvient uniquement pour ses maîtresses et parce qu'il faisait faire son portrait revêtu de tenues extravagantes. Donc le nom Charles n'est pas connoté de manière très positive.
La guerre civile pour Charles Ier, qui a fini exécuté, décapité à Londres en 1649, la restauration pour Charles II, c'est sous ces titres que les Britanniques connaissent leur règne. Par ailleurs, le règne de Charles III devrait être plus court que celui de sa mère, Elisabeth II, qui avait battu tous les records de longévité avec 70 ans sur le trône. Il faudrait donc vraiment que le nouveau roi impose sa marque autrement pour espérer laisser une marque durable dans les esprits et puis une marque positive surtout.
Merci Marie Billon, à bientôt. Direction la Belgique à présent, où contre toute attente, un débat sur l'eau au restaurant agite la société. Car contrairement à ce que l'on peut connaître en France, la carafe d'eau du robinet, gratuite dans les cafés ou dans les bars, n'existe pas chez nos voisins belges. Pour boire le précieux liquide au restaurant en Belgique, il faut commander et payer une bouteille d'eau minérale. Une bouteille qui de plus est souvent plus chère que la bière. Mais voilà qui pourrait peut-être bientôt changer, car dans le cadre d'un plan fédéral de lutte contre l'alcoolisme, le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, voudrait encourager tous les établissements qui servent de l'alcool à fournir d'ici 2025 de l'eau gratuite. Une idée qui provoque un vif débat au sein du pays, comme a pu le constater notre correspondant Jean-Jacques Herry à Bruxelles.
Si vous allez promener votre micro en terrasse à Bruxelles un soir de printemps, vous vous rendrez vite compte que les consommateurs belges attablés devant leur bière sont unanimes. L'eau du robinet gratuite, cela devrait être une évidence.
C'est vrai, on ne se pose pas vraiment la question parce que ça a toujours été comme ça. Mais j'ai des amis français, effectivement, quand ils sont ici en Belgique, ils se disent « mais c'est quand même abusé de devoir payer son eau ».
C'est assez fou de devoir payer l'eau quand on est en Belgique et pour peu qu'on puisse aller un peu voir ce qui se passe ailleurs et que ça n'allait pas, c'est interpellant, c'est sûr.
La bière est moins chère que l'eau, généralement, alors qu'on utilise de l'eau pour faire de la bière.
En restaurant, globalement, ils font 5, 6, 7 fois le prix en commerce. Mais bon, il a des bouches devant nous avec style.
Un vrai service, quoi.
Un vrai service.
Mais ça reste de l'eau.
Ouais.
Au resto, des fois, je le fais, je prends une bouteille avec moi.
Et les restaurateurs, ils disent rien?
Non, ça va. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ça coûte 5 balles pour aller aux 4 euros pour une bouteille d'eau, quoi. Ça devrait être gratuit.
Mais chez les professionnels, on n'est pas du même avis. Obligé à offrir l'eau du robinet serait une punition de plus pour le secteur de l'horeca, c'est-à-dire les hôtels, restaurants et cafés. Un secteur déjà dans une situation économique très difficile, résume Luc Marchal, le président de la fédération Horeca Wallonie.
La rentabilité des entreprises est en sursis parce que les marchandises ont augmenté. Il y a eu dernièrement l'indexation des salaires. Il y a évidemment les coûts énergétiques qui ont explosé. Voilà, si on gagnait suffisamment de marge brute, on va dire pourquoi pas offrir l'eau, mais on a besoin de vendre pour survivre.
La bouteille d'eau, elle est facturée combien de fois son prix d'achat?
Si on parle hors taxe, entre 2,5 et 4 fois son prix d'achat. Quand on met au bout de l'année toutes les boissons qui vont être servies, permettent de récupérer un petit peu cette difficulté de gagner sa vie.
Autre argument développé par la Fédération des restaurateurs, celui de la tradition.
Dans la restauration, ce qui est la culture, c'est de mettre le pain et le beurre à table d'office. Je sais qu'en France, on met le pain, pas souvent le beurre. Mais par contre, en Italie, au Portugal, en Angleterre, le pain est payant. Donc, ça veut bien dire que c'est culturel aussi.
Pour lutter contre l'alcoolisme, plutôt que de proposer de l'eau gratuite, la Fédération de l'Horeca voudrait développer la vente de boissons soft non alcoolisées pour concurrencer la bière ou le vin. Un argumentaire qui semble fonctionner auprès des politiques, car avant le gouvernement fédéral, c'était le gouvernement de la région Wallonne qui, en 2019, avait annoncé vouloir obliger les bars et restaurants à proposer de l'eau gratuite, avant tout simplement d'abandonner officiellement l'idée il y a quelques semaines. Pourtant, l'idée d'une eau du robinet gratuite se fait de plus en plus prégnante en Belgique. Et dans ce débat, le collectif Free Tap Water est particulièrement visible. L'association cherche en effet à inciter les restaurateurs à entamer cette démarche, mais les obstacles sont nombreux, à commencer par de puissants lobbies, tacle Clément Magos, membre du collectif.
On est face à une triple entente entre une fédération Horeca que nous on pense de plus en plus non représentative de ses membres, la fédération des boissons rafraîchissantes, c'est Nestlé, Danone, Unilever, c'est Coca-Cola, pour qui l'eau en bouteille c'est une activité commerciale comme une autre, ce n'est pas uniquement spa, le sympathique petit embouteilleur wallon. Et enfin, c'est vrai que ça soulève aussi quand même la question des brasseurs, des vendeurs, des producteurs de bière en Belgique. Peut-être qu'ils ont un intérêt aussi à ce que on ne se dirige pas spontanément vers autre chose que de l'alcool en allant au restaurant.
Pourtant, explique Clément Magos, l'eau du robinet gratuite est une évidence écologique.
Devoir payer pour une eau en bouteille qui a été transportée, captée loin de l'endroit où on la consomme, ça me paraît être une absurdité en 2023. C'est plusieurs milliers de fois plus polluant qu'une eau du robinet, en termes d'émissions de CO2, en termes de production de plastique, pollution de l'air, particules fines liées au transport, mais aussi captation de la ressource.
Parmi les restaurants qui ont fait le choix d'offrir l'eau, il y a celui de Sorina Siuku à Louvain-la-Neuve en Wallonie. On peut y manger avec une carafe d'eau gratuite pour accompagner son repas, mais cela reste encore un geste militant, reconnaît la restauratrice.
C'est un droit dont chaque personne doit pouvoir bénéficier, en fait. Si on commence à marchandiser sur l'eau, il nous reste quoi après l'air et après, il n'y a plus rien. Quand on l'a lancé en 2009, l'établissement ici, je crois qu'on était bien les seuls à faire ça.
Aujourd'hui, ce sont au moins 900 restaurants ou bars en Belgique proposant de l'eau gratuite qui sont recensés sur une carte mise au point par Free Tap Water. Pour continuer à faire avancer sa cause, l'association n'est pas contre une solution hybride avec une carafe d'eau du robinet qui ne serait pas gratuite dans les restaurants, mais vendue moins cher qu'une eau minérale. Pas sûr que cela contente les trois fédérations de l'Horeca du pays, Flandre, Bruxelles et Wallonie, qui ont demandé à être reçues par le ministre fédéral de la Santé publique Frank van den Broek pour lui faire entendre leurs arguments.
Est aussi l'objet de toutes les convoitises en Serbie. En quelques années, 80% de la production serbe d'eau minérale en bouteille est passée sous le contrôle d'entreprises étrangères qui ont investi dans le pays. Même les stations thermales de ce petit pays des Balkans sont à vendre, au point que certains s'interrogent, la Serbie ne prend-elle pas le risque de perdre le contrôle d'une ressource de plus en plus stratégique avec le réchauffement climatique ? Les explications de Simon Rico.
Tout a commencé en 2002, peu après la chute du régime autoritaire de Slobodan Milošević. Les nouvelles autorités ont accéléré sur les privatisations et le secteur de l'eau minérale a été l'un des premiers à intéresser les investisseurs étrangers pour tenter de conquérir de nouveaux marchés à bas prix. Cette année-là, un groupe basé à Amsterdam a racheté Knaz Miloš, société qui contrôlait alors plus de la moitié de l'eau en bouteille de Serbie. Depuis, Knaz Miloš est passé entre plusieurs mains, dont celle du français Danone. Ensuite, d'autres eaux minérales emblématiques et leurs sources ont été vendues à des groupes plus ou moins connus, dont Coca-Cola, ou encore à de douteuses sociétés basées dans des paradis fiscaux caribéens. Selon le calcul des autorités de Belgrade, le montant total des privatisations dans le secteur de l'eau minérale dépasserait les 60 millions d'euros. Un montant dérisoire au regard de l'importance de cette ressource toujours plus stratégique au fur et à mesure que le réchauffement climatique s'accélère. D'autant que les réseaux en eau potable de Serbie sont en piteux état et que beaucoup de Serbes sont obligés de consommer de cette eau en bouteille. En 2017, le ministre de l'Environnement de l'époque avait même qualifié ces privatisations massives de catastrophe nationale qui a eu lieu sans débat public ni l'accord des citoyens. En conséquence de quoi, il avait donc demandé à son gouvernement de tout faire pour remettre la main sur les sources d'eau qui ont été vendues. Or, depuis, rien n'a été fait et même les stations thermales ont été mises en vente à leur tour. Voilà qui n'est guère étonnant vu la stratégie économique très libérale qu'impulse le régime du président Vučić arrivé au pouvoir il y a une décennie.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure sur notre site internet ou en podcast. Abonnez-vous et sinon, à demain, même heure.